Hommage à Rambo. Écoute, poulette, ça risque de chauffer au max dans cet endroit. Alors écoute, tu plonges, tu te couvres et tu fermes ta gueule.
Ah, Rambo, tu es si brave. Tu feras tout pour sauver les pauvres vétérans du Vietnam, paralytiques, tuberculeux.
Pas de problème, poupée, c'est un jeu d'enfant. Les pauvres gars sont à l'intérieur d'un bunker électrifié sous le volcan. Tous, le complexe est bourré de soldats kamikazes d'élite nazie. Ce sera un jeu d'enfant, je te le dis. Allez, on entre. Il faut être discret.
Ah, Rambo! Je vous laisse te détacher.
Oh, t'inquiète, poulette. Je vais te porter dans ma main gauche et tirer de mon lance-roquette de l'autre.
Ah, mes cheveux sont tachés d'éclats d'obus.
Ne t'en fais pas, poupée, après un jet de napalm, tu n'auras plus de cheveux du tout pour te plaindre. Bordel, le camion du baron Helmut Munchausen avec une division de Panzer. Vite, il faut faire péter les mines.
Ah, je me suis cassé un ongle.
Ah, saleté de piranha. Ah.
Et dire que je vais manquer l'épisode de Virginie.
Ah, voilà la cellule. Je vais vous sortir de là, les gars!
Rambo! Il n'y a pas de soldats ici! Ce ne sont que des poitrines de poulet congelées!
Ah putain de merde, je me suis gouré d'endroit!
Te réveille en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer. Toutes les semaines depuis 15 ans.
I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. The first time I caught you out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Fin d'après-midi à tous et à toutes, et bienvenue sur les ondes de CKIA. Bon retour à la maison, 17h, quelques minutes déjà, en ce lundi 16 mars 2009, Vincent Langlois au micro. Je vous souhaite la bienvenue à votre magazine hebdomadaire sur le monde ludique, puissance maximale, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de François G. Couillard à la console.
Salut Vincent, salut!
Salut François! Alors, une mission bien remplie aujourd'hui. François, on va parler de plusieurs choses de ton côté. Qu'est-ce que tu as fait dans les dernières journées?
Ah ben, j'étais occupé à l'étranger.
Et oui!
Et je suis de retour, plus en forme que jamais, plus en forme de carré.
Excellent! Et on aura plusieurs sujets comme je disais, moi, je vais vous parler du jeu Mad World sur la Wii qui est sorti la semaine dernière. J'ai eu la chance de l'expérimenter, d'en faire l'essai. Également, avec des amis, j'ai eu la chance de jouer à Dixit, le fameux jeu de Libellude dont nous avait parlé Fraulein Evil.
Et Christian Lacroix.
Et Christian Lacroix. Donc, j'ai eu la chance de l'essayer. On pourra en reparler. De ton côté, tu as préparé quelques entrevues?
C'est vrai. Hier, je suis allé au Symposium d'escrime ancienne de Beauport, le premier événement du genre à Québec. Donc, c'est intéressant. Je suis allé faire un petit reportage là-dessus. Et on va faire un petit tour de l'actualité très court sur qu'est-ce qui s'est passé.
Excellent. On aura également un jeu à faire tirer au cours de l'émission.
Oh, alors restez bien branchés!
Et oui, il y aura une question surprise également, peut-être. Et on va débuter tout de suite en musique de ton côté, François.
OK, on va commencer avec Hotel California, mais version Moog Cookbook. Vous allez voir, c'est spécial. C'est fait avec des claviers Moog.
Oh.
Est-ce que tu connais ça, non?
Pas du tout, mais j'ai fait un « ou » quand même impressionné pour voir ce que c'était.
OK, vous allez voir. En tout cas, c'est un vieux clavier des années, je sais pas trop quoi. Des années tranquilles, des puissances maximales.
Sur les ondes de Cécaïa.
Je suis Normand Amour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour.
Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu notre ami Normand à l'émission. On le salue, il est en train de nous écouter. Et on va passer...
Il fait pas chaud au Madrid. Ben.
Il fait pas chaud ces temps-ci. On va passer à la chronique jeux vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui du jeu Mad World.
Mad World, qu'est-ce que c'est que ça? T'en avais parlé un peu?
Ouais, on en a parlé un peu en actualité à l'époque, parce que c'est un jeu qui sortait un peu de l'ordinaire. C'est un jeu en noir et blanc, avec quelques taches de rouge, on pourra en reparler. Et c'est un jeu qui faisait pas l'unanimité non plus au niveau des soit des parents ou en fin de compte de certaines personnes qui étaient propriétaires de Wii. On sait que la Wii c'est beaucoup plus familial comme console que les consoles Xbox ou PS3 sur lesquelles on retrouve beaucoup de jeux de tir ou des jeux plutôt violents.
Alors, il faut être très gentil sur la Wii.
La Wii, c'est un peu comme ça en fin de compte. Nintendo a toujours eu des jeux qui étaient, oui, avec un peu de violence par-ci par-là, mais beaucoup plus de jeux familiaux. Et Mad World est arrivé la semaine dernière, le 10 mars, sur nos tablettes. C'est un jeu de combat à la troisième personne, mais on peut dire aussi que c'est un jeu de plateforme dans un sens, puisqu'on doit faire des étapes avancées vers ce qu'on appelle les fameux boss là, qu'on a dans les jeux de plateforme, que ce soit le Mario, que ce soit peu les jeux là, dans lesquels on devait affronter après chaque tableau un méchant. Et c'est ce type de jeu-là. C'est publié par Sega et développé par Platinum Games. Et ça joue en solo ou à deux. Okay. Deux modes différents, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Et ça se vend environ 54,99 à 59,99. Jeu classé M
pour mature.
Bien sûr, mature. Alors, si vous n'avez pas les oreilles d'une personne de 18 ans et plus, on vous demande de les fermer pour le moment parce qu'on va parler de sang, de violence et de mauvais langage.
Oh là 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 là.
C'est quoi l'histoire de Mad World? Ben, c'est la ville de Varigan, qui est une ville inventée, qui ressemble, en fin de compte, qui est sur une île, qui ressemble un peu à Manhattan sur la carte, est occupée par de très, très étranges personnages. On l'a mis en quarantaine et on y joue dans cette ville-là les très sanglants Death Watch Games.
Oh.
Quel est le but de ce sport? C'est un sport haineux, là, vraiment le plus haineux de l'histoire de l'humanité, vraiment, qui a débuté.
C'est de tuer des êtres humains.
Télévisé, et c'est d'éliminer des gens pour se rendre au boss.
C'est un jeu télévisé.
Eh oui, c'est un jeu télévisé. En fin de compte, on peut le voir par rapport à ce qu'on entend, parce qu'il y a des commentateurs qui commentent les gestes qu'on fait. Et également, on voit un peu l'image là, qui est parfois embrouillée, comme s'il y avait des petites ondes. C'est une mauvaise image de télévision, là, parfois, lignes, donc... qui fait que ça a l'air justement d'un jeu télévisé.
Donc, c'est-à-dire que les animateurs, pendant que tu tues les gens, ils trippent, ils exultent.
Ils parlent plutôt de la technique que tu as pour... Okay. Ils disent, voilà, c'est moi qui avais inventé cette technique-là. Et bon, c'est comme si c'était des anciens participants. Il y a un petit côté humoristique. Là. Okay. Tu ris, là, mais c'est vrai, il y a quand même un petit côté humoristique sur le jeu, malgré le fait que ce soit un jeu extrêmement violent. Humoristique, humour noir, humour aussi très violent dans le langage, là, en anglais. Moi, j'ai joué le jeu en anglais. Je l'ai testé un peu en français aussi. Tu sais, le fameux mot en anglais qui commence par F, là, il est utilisé quelques fois. Okay. Donc, vraiment, c'est vraiment pas un jeu pour les gens qui sont en bas de 18 ans. Et le but, c'est d'éliminer les adversaires et de se rendre au boss de chaque tableau. Un peu, je sais pas si tu avais déjà joué à Smash TV dans le temps. C'est un jeu, justement, qui mettait l'ambiance d'une émission de télévision dans laquelle on devait tuer des bébites, des aliens, des choses comme ça.
Puis d'ailleurs, c'est pas inspiré d'un film là, comme Blade Runner ou un truc comme ça?
Non, il y a Blade Runner, mais il y avait aussi le film avec Arnold Schwarzenegger, qui était une nouvelle ou un roman de Stephen King, je me souviens plus du titre. Ça peut être inspiré un peu de ça, c'est un genre de chasse à l'homme, là. Mm-hmm. Mais c'était plus le contraire, en fin de compte. Celui d'Arnold Schwarzenegger, il partait et il se faisait courir après comme s'il était un chevreuil ou quelque chose comme ça. Tandis que là, vraiment, c'est le but d'avancer vers le boss et d'éliminer ceux qui font face à nous autres.
Okay.
Après 3 jours de chaos dans la ville, ben, on arrive, nous, le personnage de Jack Kamen, qui est un personnage qui maîtrise à peu près tout, là. Combat à main nue, main armée. Il y a même une scie mécanique sur le bras droit, sur la main droite.
Ah, ça, c'est le fun.
En prothèse, là, la scie qui sort d'on ne sait pas où.
Ah, ouais.
Oh, oui, c'est vraiment.
Ça, c'est important, les scies mécaniques dans les jeux.
Ben,
ça,
depuis quelque temps, on en voit quand même plusieurs, ouais. Les scies mécaniques. On en a vu une couple de fois dans Resident Evil, dans les derniers, le 4 et celui qui vient de sortir, le 5.
Les jeux zombies.
Et à quel endroit d'autre? Ben, on en a vu dans le jeu Gears of War, qui s'était même inclus dans une des armes. Et là, on s'entend, le personnage s'entend pour être le prochain concurrent du jeu, et on s'en va tranquillement éliminer les différents adversaires pour se rendre au boss. Comment que ça se joue, ce jeu-là, avec la Wii? Ben, bien sûr, on imagine que ça se joue avec le Nunchuck et la Wiimote, donc les deux ensemble, ce qui fait que le Nunchuck nous sert pour les déplacements, la Wiimote nous sert pour brasser un peu faire des mouvements, des attaques là, envers nos adversaires. On avance toujours dans des endroits fermés, donc c'est un jeu qui est très linéaire. Parfois un petit peu plus grand, oui, quand on arrive dans des salles, mais on ne peut pas... C'est pas un jeu avec un monde extrêmement ouvert. On n'a pas le choix, on doit se rendre dans des endroits qui sont indiqués. Donc, on peut être soit sur la rue, qui est une rue très fermée parce qu'on a mis des barricades pour ne pas que les gens s'échappent, des stations de métro, on a même un tableau à un moment donné où on est en motocyclette et on doit éliminer des concurrents qui arrivent en voiture autour de nous.
Ah, il y a des véhicules. Moto.
Oui, il y a des véhicules, mais bon, c'est pas des véhicules qu'on conduit et qu'on tourne le prochain coin de rue, là.
Okay, okay.
C'est très linéaire, on suit, on fait juste aller gauche à droite, un peu comme un bon vieux jeu de pole position dans le temps.
Okay.
Et on avance et on élimine les gens. C'est quoi le but en fin de compte? C'est d'accumuler des points. On doit accumuler des points tout le long du jeu. C'est pour chaque tableau. Plus on accumule de points, plus on a de chances d'arriver rapidement au boss.
Ah.
Mais il y a différentes étapes qu'on doit faire. Après avoir accumulé tant de points, là, il y a un mini-boss qui arrive devant nous. On doit l'affronter, on doit l'éliminer pour pouvoir continuer.
C'est-à-dire que plus t'es performant, plus que tu vas finir les tableaux vite.
Oui, rapidement, en plein ça. Parce qu'il y a différentes façons d'accumuler les points. Tu peux faire un coup de poing seulement qui va te donner une centaine de points, tandis que tu peux également utiliser des objets autour de toi, par exemple des pneus. Tu prends un pneu, tu le mets autour de la personne, ce qui fait que la personne ne peut plus bouger les bras.
Ouais.
Et ça te donne des points de plus dans les combos, disons, on appelle ça des combos, que tu peux faire pour les éliminer un à un. Et le premier boss, par exemple, pour arriver à lui, il faut faire un total d'1,6 million de points avant d'arriver. C'est certain que, par exemple, un pneu autour d'une personne, ça donne 6,000 points. Si, en plus de ça, tu l'élimines d'une façon ou d'une autre, ça peut donner 10,000 points de plus ou 20,000. Donc, c'est un jeu quand même assez spécial quand on regarde la mentalité de ce jeu-là, éliminer des gens. Mais c'est un jeu quand même qui sort extrêmement de l'ordinaire.
Ben oui, c'est en noir et blanc, puis tu dis que c'est troublant, mais en plus, la seule couleur qu'on voit, c'est le sang. Donc, j'imagine qu'effectivement, oui, il y a quelque chose de troublant.
Ben, c'est extrêmement troublant, oui. Quand tu joues à ça, tu dis, ouais, est-ce qu'ils sont allés trop loin au départ? Parce que, comme tu dis, là, c'est du noir et blanc. Puis, le fait que ça soit noir et blanc, c'est pas quelque chose d'extrêmement... Oui, c'est extraordinaire, mais on s'entend que la Wii... C'est pas la console la plus puissante des trois de la dernière génération. Là, c'est la moins puissante. À l'époque, il y a à peu près un an de ça, on avait parlé du jeu No More Heroes, qui est un jeu un petit peu dans ce style-là. C'était un Grand Theft Auto, disons, plus court, un peu pour la Wii. Et les graphiques, tout avait été fait basé sur un petit peu style manga, mais style aussi des années 80, les jeux des années 80, 8 bits, puis tout ça, avec des gros pixels. Pis ça avait été basé là-dessus, tout le monde était là, waouh, ils ont eu une excellente idée d'avoir fait ça, basé sur le... Ils sont comme revenus sur les jeux des années 80, les gens trouvaient ça super intéressant. Oui, ils ont eu une très bonne idée, mais ils ont également exploité la Wii dans ce qu'elle peut donner. Elle peut pas donner plus que ça, en fin de compte, au niveau graphique. Et c'est à peu près ce qui arrive avec Mad World. On a utilisé le noir et blanc, on utilise un peu les... au niveau du la qualité graphique, c'est présenté un peu comme en bande dessinée.
Mm-hmm.
Donc, des vignettes qui arrivent, qui partent, quelques mouvements des lèvres des personnages dans les animations, quelques déplacements, mais le monde ambiant ne bouge pas. Les personnages se retrouvent souvent seuls dans les animations, donc on a juste un personnage à faire bouger, tandis qu'autour, c'est immobile. Ce qui fait qu'on peut aller chercher quelque chose de plus intéressant avec la Wii à ce niveau-là. Le noir et blanc, bien sûr, c'est quand même bien défini. Moi, j'ai été impressionné parce que la première fois que j'avais vu ce jeu-là, j'étais sur un simple téléviseur normal. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, je l'essaye sur mon téléviseur HD. Et un gros écran, 42 pouces. Et j'ai pas vraiment vu différent. Mmh. J'ai trouvé que ça sortait très bien. C'est seulement du 480p en termes de définition. Mais j'ai été vraiment impressionné. Je veux dire, dans ma tête, je me disais, bon, je vais être obligé d'aller sur mon petit téléviseur pour le jouer. Non, je vais le garder sur le gros téléviseur haute définition. Okay. Et c'est quand même intéressant à jouer. Bon, comme je disais, les animations en forme de BD, les vignettes qui se déplacent. Il y a quelques, disons, onomatopées qu'on peut voir là, du style à la Batman des années 60, là, les ping, pow, puis tout ça là, qui apparaissait à l'écran.
Ah ouais.
Ben, quand on se bat, il y a des choses comme ça, des crash, des vrooms quand on y va avec la moto.
Donc, dans Mad World, il y a des clins d'œil vers le passé.
Un peu, oui, disons. Puis je pense que ça amène quelque chose d'assez intéressant pour le jeu aussi également. Là. C'est quand même quelque chose de très bien. Le jeu vocal est extrêmement réussi. L'interaction entre les acteurs, en fait, compte, qui ont fait les personnages, là. Moi, je joue toujours avec des écouteurs pour les jeux. Une ambiance quand même en peu phonique assez réussie. C'était impressionnant de voir ça, là. C'est très, très bien fait. C'est ça. On a compensé le manque de puissance de la Wii pour le noir et blanc. Puis comme je disais, c'est pas pour rien non plus qu'on a fait semblant que c'était comme une émission de télé avec le petit côté là, de court-circuit ou de choses comme ça. C'est que la Wii, elle peut pas nécessairement faire non plus quelque chose d'extrêmement clair et net. C'est comme ça. Donc on a quand même bien fait à ce niveau-là. Quelques défis au travers du jeu également, là, qui appellent les Blood Bat Challenge. Là. Donc les défis bain de sang. Tu comprendras ce que ça veut dire. Et en général, c'est très bien. Les points négatifs du jeu, ben c'est le temps de jeu. Là. Ça dure à peu près 5 et 6 heures, finir le jeu au complet. Il n'est pas dit qu'après ça, tu peux pas le réessayer puis faire de nouveaux mouvements ou de passer le jeu avec plus de points. C'est possible de le faire, mais c'est environ 5 à 6 heures pour passer le jeu au complet. Après ça, il y a le mode duo, en fin de compte, avec deux personnes qui peut être utilisé, mais c'est plus un mode... ça fait drôle de dire ça, mais party game, jeu de party. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les défis qui s'appellent les Blood Bat et on peut jouer à deux un contre l'autre, celui qui fait le plus de points, tout simplement. Un autre côté négatif, ben, le fait que ça soit en noir et blanc, oui, c'est innovateur, sauf que parfois... Tu perds de la vie dans le jeu, comme dans n'importe quel jeu où il y a des combats. Et t'as des petites capsules qui te permettent de reprendre des points de vie. Ils sont pas extrêmement visibles. Les capsules sont noires et blanches. Donc, à travers une ambiance noire et blanc, c'est pas évident. Parfois, on dit « Hey, tu peux utiliser une nouvelle arme là qui est là. » Oui, elle est où? Je la vois pas. Elle est suspendue, mais à travers un monde de noir et blanc, dans une arme noir et blanc, c'est pas évident. Donc, il y a des petites affaires comme ça. Le contrôle de la caméra, là, de jouer, c'est pas évident non plus. Parfois, ça va vite, ça tourne vite. Mais ça en fait un jeu qui est innovateur en soi, un jeu extrêmement violent. Justement, on parlait de la qualité graphique, du fait que ça soit noir et blanc et qu'il y a du sang en rouge qui sorte. C'est certain que c'est un des plus violents là, que j'ai pu voir depuis que je joue à des jeux. Vraiment, c'est assez violent. Au total, moi, je donne un 8 sur 10. C'est un jeu qui est bon, bien sûr, si on respecte la règle du fait que c'est un jeu qui est fait pour les adultes. Il y a des gens qui vont passer des heures à s'amuser avec ça. Ça fait bizarre de le dire, s'amuser avec un jeu extrêmement violent. Mais bon, il y a de la clientèle pour ces jeux-là. Et ça sera. Moi, je donne un 8 sur 10. Ça vaut la peine d'être acheté pour les gens, mais ça vaut peut-être la peine peut-être de l'essayer avant. Parce qu'il peut y avoir, oui. On peut peut-être, entre guillemets, s'écœurer assez rapidement dans tous les sens du mot.
OK.
Alors, ça fait le tour du jeu Mad World pour la Wii.
Ben écoute, je te remercie beaucoup, Vincent. Mad World, c'est intéressant. Ça m'intéresse comme jeu.
Excellent. Et on va passer en musique.
Oui, donc, quelle musique qu'on va faire jouer? On pourrait faire jouer du Plume La Traverse, tiens, pourquoi pas, il est sorti un album cette année qui s'appelle Plumonyme, et ça va être la chanson titre, Face ou Pile. Vous écoutez Puissance Maximale.
On va se confiner à la chaudette, signaler une entrée dans cette
comme au ciel ton esprit de propulseur. Suivant son envie, face ou pile, chaque joue sa vie, face ou pile, mais c'est le sort qui choisit. Face ou pile, pile de face et si, face ou pile, le sort est indécis, face ou pile, fais face au défi qui s'y face. Tombe pile, sans trop perdre la face. Pas facile de pas faire la grimace. Quand le profil nous tourne en lieu sur place, de la pile qui se remplit la masse. Face pile, les deux font la paix, face ou pile, le père ou la mère, face ou pile, le ciel ou l'enfer transfère.
Misère!
Face ou pile, la paix ou la guerre, face ou pile, flipper dans les airs, face ou pile, le hasard repère s'y perd.
prend les pilles, chaque face tente sa chance. Versatile à chaque pièce qu'on lance. Sur la pile, il sort sans même plein la pince. Volatile, c'est la monnaie qui danse. Gonfle les rivières, face aux piles, bloque les artères, face aux piles, espine la terre mystère. Face aux piles, ainsi va la vie, face aux piles, avec ses lubies, face aux piles, la chanson finit ainsi, soit pile.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Sur les ondes de CKIA, et François, en fin de semaine, tu as eu la chance d'aller au premier symposium d'escrime de Québec.
Eh oui, et donc on va écouter ça, c'est au Stade Dojo de Beauport, et puis les plus grands experts de maniement d'armes du Québec, de la région de Québec, étaient rassemblés. Et
j'imagine beaucoup d'amateurs de grandeur nature ou de joueurs également pour voir un peu les techniques qu'ils peuvent développer dans leur jeu peut-être.
Ben des amateurs de d'histoire, oui, dans le fond.
Histoire de combat d'armes, combat d'épées.
Oui. Donc sans présentation, allons-y, écoutons ça.
En garde. Ladies and gentlemen.
Le Symposium d'escrime de Québec est le premier événement du genre dans la capitale. Il a la particularité de rassembler des amateurs de culture écossaise, japonaise, allemande et italienne. Tout ce beau monde se réunit pour échanger sur un art tombé dans les oubliettes de l'histoire, le combat à l'épée.
Je m'appelle Maxime Chouinard, je suis enseignant de Shinkendo au Cégep Sainte-Foy, puis je suis l'organisateur du symposium d'escrime de Québec qui se déroule aujourd'hui.
C'est quoi du Shinkendo?
C'est le maniement du sabre japonais. Ça a été développé dans les années 80 par Obata Toshijiro Sensei. C'est un amalgame de plusieurs écoles traditionnelles. Nous, on met beaucoup l'emphase sur l'aspect pratique de la chose. Il faut que la technique soit réaliste, il faut que la technique soit applicable. Ben moi, ce que je voulais faire, dans le fond, c'est montrer un peu la diversité qu'il y a dans l'univers de l'escrime. Puis dans l'univers des arts martiaux aussi, parce que pour le public en général, arts martiaux, ça sonne asiatique. On pense aux films de Bruce Lee, on pense à Tigre et Dragon, mais nos ancêtres, nous, les Européens, pratiquaient aussi des arts martiaux qui ont malheureusement été oubliés, mais qui sont aujourd'hui reconstruits par des amateurs, professionnels dans le domaine à partir de vieux manuscrits. Puis je voulais faire découvrir ça aux pratiquants d'arts martiaux, puis essayer de rejoindre les deux groupes, essayer de créer des liens. Je pense que c'était ça le but principal de l'événement. Ben moi, je conseille à tout le monde d'au moins essayer un art martial, parce que on est dans une société beaucoup qui essaie de cacher la violence, cacher l'agression, essayer de faire semblant que ça n'existe pas. Puis, faut être réaliste, on a tous une part de violence en nous. Et puis, si on n'essaie pas de la découvrir puis de l'accepter pour la contrôler, je pense que ça peut exploser à tout moment. À l'école, j'étais quelqu'un d'assez timide, réservé, puis je me faisais carrer, franchement. Et puis mes parents, un jour, en ont eu assez, puis ils m'ont dit « Mais on va t'inscrire au karaté, mon gars ». Puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu la piqûre tout de suite. J'ai été au Japon m'entraîner, j'ai fait des compétitions. Aujourd'hui, je pratique plus le Kyokushin, malheureusement. Mais je me suis versé dans d'autres arts martiaux. J'ai fait du jiu-jitsu brésilien. J'ai essayé le Krav Maga. J'ai été aussi en Irlande l'année passée à apprendre le bâton irlandais puis la boxe. Puis j'essaie de me diversifier, d'être un artiste martial complet, si on veut.
Là, tu t'es-tu HL à l'école?
Non, mais je me fais HL à d'autres places, mais une fois que tu connais, je pense, une fois que tu connais ta force, une fois que tu connais ce que t'es capable de faire, ça tente pas nécessairement de l'appliquer. Il y a plusieurs situations dans ma vie où j'aurais pu appliquer ce que je sais, mais t'as rien, une fois que tu sais que t'as plus rien à prouver, ça te passe par-dessus la tête.
Je suis le sergent-major Simon Farnell Morissette du 78e Fraser Highlanders. Essentiellement, c'est une organisation internationale à but non lucratif, a comme mission de faire la promotion de l'histoire et du fait écossais, ainsi que l'histoire de la guerre de 7 ans, et l'histoire militaire générale, et la mission de Québec, c'est résumé en 3 volets, c'est l'histoire, la culture et le développement de la jeunesse. L'histoire du régiment commence en 1754 en Amérique du Nord. Le régiment participa à la bataille, à la guerre de 7 ans, dont entre autres la bataille des Plaines d'Abraham. Et le régiment était dissous au Canada à la fin de cette guerre-là. Alors, beaucoup de ces hommes-là sont restés et se sont intégrés à la culture locale. Alors, ce qu'on fait concrètement, on a plusieurs volets. On a un pipe band qu'on appelle un fanfare de cornemuse et de tambour. On a un club social, surtout, qui fait des événements à saveur et à culture écossaise. Et on a le EDS, qu'on appelle le projet d'escouade, de démonstration d'élite, qui est, si vous voulez, c'est le volet de développement de la jeunesse, où on entraîne des jeunes en maniement de fusils, des fusils d'époque, c'est-à-dire des fusils à silex, les Brown Bess, aux manœuvres militaires et aux combats à l'épée. Les épées étaient, c'était pas des épées standardisées d'abord. C'était pas chaque homme ne se faisait pas donner une épée par le gouvernement quand je joignais à l'armée. La plupart d'entre eux amenaient leur propre épée. Alors c'était certainement très variable. Mais on parle d'épées basket hilt, c'est-à-dire qui protègent très bien la main, qui s'appellent des claybeck, qui veut dire petite épée en gaélique écossais. Petite épée, mais c'est quand même des très grandes épées. On parle d'épée seulement à une main, qui la distingue de la claymore, qui est une épée à deux mains. Alors, c'est une épée à une main qui protège extrêmement bien le poignet.
C'est quoi la taille de l'épée?
Ça tombait dans ce qui était variable. Ça peut aller de n'importe où, de moins d'un mètre à un mètre et demi.
C'était quoi le cri de guerre des Frasers?
Oh, traditionnellement, il y avait un cri de guerre en gaélique qui parlait, je m'en rappelle pas, mais je m'en rappelle pas du cri de guerre, c'est-à-dire, mais essentiellement, ça parlait des marécages, des terres du Lord Lovett, qui était le chef du clan. En dehors de leur tenue très, très typiquement écossaise, qui, en tant que telle, faisait peur aux ennemis, les Écossais avaient aussi leur cornemuse, qui était un instrument qui était considéré une arme en part entière à cause de l'effet que ça avait sur un champ de bataille. C'était quelque chose qu'on entendait et qui était terrifiant pour les ennemis. Il y avait aussi que les Écossais avaient la grande tendance de préférer se battre très rapprochés de leur ennemi. C'est pour ça qu'ils traînaient encore leurs grosses épées, quand la plupart des autres armées européennes traînaient des petites épées, voire même les coloniaux n'avaient même plus d'épées. Traînaient des haches qui servaient tant comme marteau que comme arme. Les Écossais adoraient leur épée et adoraient les utiliser. À la bataille des Plaines d'Abraham, par exemple, ça a été une bataille très courte. Les forces britanniques ont tiré 2 coups. Et après ça, il y a quelqu'un dans les rangs écossais qui a décidé que c'était assez. Les Français étaient probablement déjà en déroute. Alors, les Écossais ont lâché leur fusil, quelque chose qui se faisait presque jamais dans un champ de bataille, pour sortir leur épée, pour pouvoir rentrer dans les corps français. C'était probablement la dernière fois au monde que ce genre d'attaque-là, qui s'appelait traditionnellement le Highland Charge, ou la charge du nord de l'Écosse, a été utilisé avec effet positif dans une guerre.
C'est ça, parce que la bataille était déjà gagnée, heureusement.
Oui, heureusement. La bataille était déjà gagnée, c'est vrai, sauf que il y a des histoires documentées d'Écossais qui ont chassé pendant plusieurs kilomètres les Français qui essayaient de fuir et qui avaient des espèces de démons en kilt avec des épées qui leur couraient après. On peut imaginer que c'était vraiment très effrayant.
Je m'appelle Patrick Demarquis, je suis un des fondateurs et le directeur de l'école d'escrime ancienne Les Duellistes à Montréal. Les Duellistes, c'est une école d'escrime ancienne. L'escrime ancienne, c'est tout le corpus de techniques martiales qui était utilisé au Moyen-Âge en Europe occidentale.
Et là, vous basez un traité en particulier là.
Alors, pour le cours d'épée longue, oui, on utilise une source principale qui est celle des vers de Lichtenauer, glosés et commentés par Sigmund Ringeck.
Sigmund Ringeck et Lichtenauer étaient des maîtres escrimeurs allemands du 15e siècle. Ils ont conçu le manuscrit illustré de façon cryptée pour empêcher la lecture par des non-initiés. Le système de Lichtenauer a influencé tous les manieurs d'épée de l'Allemagne médiévale. Vraisemblablement, son influence se fait encore sentir aujourd'hui.
Donc c'est notre source principale, puis on essaye de recouper évidemment pour essayer d'aller étoffer un petit peu notre connaissance qui pour l'instant reste quand même partielle. Les gens ont tendance à penser que les armes étaient extrêmement lourdes, que c'était des barbares et des grosses bêtes fortes qui se tapaient dessus en hurlant, et on se rend compte à la lecture des traités, à leur interprétation, qu'au contraire c'est une escrime d'une grande finesse qui allie la tactique et de grandes possibilités techniques, absolument. Le fleuret est une arme sportive qui ne travaille que d'estoc, alors que l'épée longue, qui est de 500 ans ou à peu près son aînée, est une arme qui, elle, utilise autant l'estoc que la taille, qui est évidemment un peu plus longue, plus lourde aussi, qui s'utilise à deux mains, qui est une nouveauté au Moyen-Âge en l'occurrence, d'utiliser une arme à deux mains, avec les deux mains dessus, c'est quand même assez neuf à la fin du Moyen-Âge. Mais il y a une filiation entre l'une et l'autre. Il n'y a pas de rupture à un moment ou à un autre. Il y a une rupture dans l'utilisation d'une certaine escrime pour aller vers une autre.
Et qu'est-ce qui distingue là, justement l'école allemande par rapport à l'école italienne, par exemple?
Fior de Liberi, puis ça n'engage que lui, évidemment, mais allez savoir si ça n'a pas créé une façon de se battre en Italie. Va beaucoup justement s'appuyer sur la lutte et va transposer énormément de techniques qu'on va travailler proche de l'adversaire pour aller mettre les mains dessus, alors que chez les Allemands par exemple, c'est des choses qu'on utilise mais de façon beaucoup moins présente en fait. Alors sauf que c'est dans les différences qu'on peut retrouver, il y en a évidemment d'autres.
C'était un reportage de François Gécouillard.
Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
C'est si, mettons, on met un samouraï qui utilise sa technique contre un chevalier médiéval allemand du 15e siècle, c'est qui va gagner?
Moi, la réponse que quelqu'un m'a dit une fois à cette question-là, si un samouraï et un chevalier se rencontrent un jour, ils vont sortir leurs épées, ils vont regarder leur position, ils vont rengainer, ils vont serrer la main, ils vont aller au pub prendre une bière, puis ils vont parler de poésie, femmes et combats.
Parce que les deux, c'était des grands, des gens cultivés, dans le fond, c'est ça?
Oui, ben c'est des cultures tellement complexes et tellement intéressantes. Je crois qu'il faut pas s'attarder à essayer d'en prendre un qui est supérieur à l'autre. Je pense que les deux s'équivalent, les deux sont complexes, les deux méritent d'être précis.
Si tu mettrais un Fraser Islander du 17e siècle contre un samouraï japonais, c'est qui gagnerait?
Ouf, oh, ça c'est le genre de questions qu'on peut débattre pendant des heures et des heures de temps. S'ils sont à plus que 10 pieds l'un de l'autre, le Fraser Highlanders a quand même un fusil. je m'aventurerai pas là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités.
J'aimerais savoir, si on mettait un chevalier allemand du 15e siècle contre un samouraï, c'est qui gagnerait?
Mon Dieu, c'est une question qui parsème les forums d'arts martiaux. En ce qui me concerne, je refuse totalement de répondre à cette question.
C'est une bonne réponse, hein.
Oui, parce que elle restera sans réponse de façon systématique. D'abord extrêmement complexe d'essayer de trouver une réponse à cette question, et en ce qui me concerne assez futile en fait. C'est important dans notre communauté d'escrime ancienne, plutôt d'essayer de partager, je pense qu'on est rendu là, plutôt que de s'opposer, bien que l'opposition soit un réflexe martial. Alors, je pense qu'il faut le dépasser puis essayer de communiquer.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Sur les ondes de CKIA, de retour à l'émission, et je vais prendre un peu de temps pour vous parler, chers auditeurs, du jeu Dixit, dont nous avons reçu une copie il y a de cela quelques semaines. Et
jeu de plateau.
Ouais, jeu de plateau, jeu de cartes, en fin de compte, plateau plus ou moins gros sur le jeu. Là. Oui, le plateau sert seulement à déplacer les pions pour dire qu'on compte les points, parce que vraiment, c'est le jeu de cartes qui est intéressant au niveau de ce jeu-là, Dixit. C'est un jeu de la compagnie Libellude. Si vous ne la connaissez pas, c'est un peu normal. Là, c'est une très jeune compagnie d'édition de jeux. Et Dixit est le premier jeu édité par cette compagnie-là. Ça a été fait par Jean-Louis Roubira, qui est un psychopédiatre français de 45 ans. Les fameuses cartes sont illustrées par Marie Cardoua, qui est une jeune illustratrice très connue en France.
Est-ce que le psychopédiatre, il y a un lien avec le jeu?
Bonne question. Je n'ai pas pu lui demander. Mais ça se peut vraiment que cette personne-là soit...
Parce que je sais que c'est un jeu qui a rapport avec les rêves.
Oui, les rêves, en fin de compte, les images font rêver dans un sens. On essaie de trouver des phrases qui ont rapport à ces images-là. Donc, ça se peut que la formation de cet homme-là lui ait permis de créer ce jeu-là, j'imagine. C'est un jeu de société, donc, pour les 8 ans et plus, qui joue de 3 à 6 joueurs. Et ça dure environ une trentaine de minutes, là, chaque partie au complet. Nous, j'ai essayé pour deux parties, ça dure à peu près entre 30 et 40 minutes chaque partie. C'est quand même bien là au niveau de ce jeu-là. Le jeu comprend 84 cartes illustrées de grand format qui sont vraiment très belles. Là. C'est comme des petites peintures avec des images très, très...
très jolies. Hein.
Très jolies, mais également variées. Je veux dire, on regarde ça, puis ça veut dire bien des choses en les regardant, ce qui fait que le jeu, on peut le rejouer facilement et changer un peu l'interprétation qu'on a des cartes. On verra pourquoi dans quelques instants. Et inclus dans le jeu, bon, bien sûr, vous avez les pions le plateau qui, comme je vous dis, n'est pas extrêmement... On pourrait se faire un plateau nous-mêmes et compter deux points sans problème. Comment ça fonctionne, ce jeu-là? Bon, au départ, on brasse les cartes et on en distribue 6 à chaque joueur. Ce sont les cartes avec les images dessus. Il n'y a rien d'autre d'écrit, là. C'est vraiment des cartes avec des images comme des peintures. Mm-hmm. Tout le monde regarde ces cartes. Et rapidement, au début de la partie, pour le premier tour du jeu, disons, c'est le premier qui, en regardant ses cartes, le premier joueur qui trouve une phrase, une expression, une onomatopée, un mot, qui décrit la carte.
Ça doit être facile?
Ben, ça doit être facile. Quand on regarde les cartes, c'est vraiment pas évident, là. Parce que, au total des 84 cartes, il y a plusieurs cartes qui s'entrecoupent. Au niveau de, bon, c'est pas les mêmes images, mais au niveau des idées, il peut y avoir plusieurs cartes qui s'entrecoupent. Je continue un peu de vous dire. Donc, le premier qui dit une phrase a le droit de commencer le tour. Bon, okay. Moi, je dis la phrase, on joue ensemble, on est 4 personnes, je la dis, ce qui veut dire que j'ai ma carte dans les mains. Et les autres joueurs autour de moi doivent, dans leurs 6 cartes, prendre la carte qui est la plus près du mot ou de l'expression que j'ai dit. Okay. En la regardant, elle dit, bon, c'est cette carte-là qui, selon moi, pourrait être la plus près.
Okay.
On donne cette carte-là à la personne qui a dit la phrase au début, qu'on appelle le compteur. Et cette personne-là mélange les cartes et on les place une à une face sur le dessus, donc on les voit, une à une sur la table. Dans l'ordre, on les numérote 1, 2, 3, 4, parce qu'on est 4 joueurs à avoir mis les cartes. Tout le monde autour de la table regarde les cartes et le compteur sur ce tour-là ne peut pas jouer parce que bien sûr il est le seul à savoir quelle était sa carte. Mais les 3 autres joueurs ne savent pas quelle était la carte du compteur.
Et là ils doivent quelle est la carte du compteur.
Ils doivent deviner en votant est-ce que c'est la numéro 1, 2, 3, 4.
En votant.
Oui, en fin de compte, votant, c'est pas nécessairement un vote, mais c'est mm-hmm. un petit carton qu'on a qui est numéroté de 1 à 4 et on dit, moi, je pense que c'est la numéro 1, okay. 2, 3, 4. Et de cette façon-là, bon, on place notre jeton sur la carte ou tout près de la carte pour dire, moi, c'est ce que je veux voter ou c'est la carte que je décide que c'est celle dont on parlait. comment ça fonctionne par après, bien là on compte les points, il y a des points qui sont attribués à ça. Si
donc ceux qui ont deviné la bonne carte du compteur, ils ont des points.
C'est ça. Si aucun joueur ou tous les joueurs ont voté pour la carte du compteur, tous les joueurs sauf le compteur ramassent 2 points.
Ah.
Le compteur lui n'a pas de points du tout.
Okay, okay,
même s'il a réussi à déjouer tout le monde ou malheureusement tout le monde a trouvé sa carte, il n'a pas de points. Et ça, ça a été un petit point négatif que les joueurs avec qui j'ai joué avaient. Ils disaient, mais il me semble que j'ai réussi à ne pas,
trouver
la carte. Puis je me semble que je mériterais quelques points juste pour ça. Sauf que, oui, moi, je trouvais ça quand même intéressant comme idée, c'est vrai. Mais par après, je me suis mis à réfléchir à ça, puis je me suis dit, ouais, il me semble que tu dis à peu près n'importe quoi, puis personne la trouve ta carte, là, tu sais, c'est, puis là, les autres disaient, mais moi, je serais prêt à justifier, pourquoi j'ai dit cette phrase-là, et bon, il me semble que là, ça viendrait faire perdre peut-être le fil du jeu, l'ambiance dans laquelle on est, toujours avoir à justifier pourquoi j'ai dit ça. Donc, je pense que c'est un peu normal dans un sens qu'on doive quand même garder une certaine stratégie qui fait qu'on, de ce dont on parle, c'est vraiment ce qui est sur la carte et non n'importe quoi.
Okay.
Mais ça nous amène à dire bien des choses également, là, des expressions farfelues ou ce qui est quand même intéressant.
Okay.
Donc, ça, c'est un type de point. Si jamais il y a quelques joueurs seulement qui ont trouvé ma carte, disons qu'il y a un joueur qui a trouvé ma carte, j'ai le droit à 3 points. Et le joueur qui a trouvé ma carte a droit à 3 points aussi.
Okay.
Et si jamais les votes sont distribués sur les différentes cartes, bien, les gens, à part le compteur, qui ont reçu des votes sur leur carte, méritent 1 point chaque.
Okay.
Et, bon, on continue comme ça. Le prochain tour, c'est celui qui est à gauche du compteur. Il devient le nouveau compteur.
Ben,
on pige chacun une carte pour qu'on ait toujours 6 cartes dans les mains. Et on recontinue comme ça. Le nouveau compteur dit une phrase. On regarde laquelle...
C'est archi simple.
C'est très, très simple comme jeu. Et on comptabilise les points jusqu'à temps qu'il ne reste plus de cartes dans les cartes à piger, tout simplement. Et c'est le jeu en général, le jeu Dixit, qui, moi, m'a plu, vraiment. Là, c'est quand même une très bonne idée. Ça a été quand même le jeu de l'année au Festival de Cannes, L'As d'or.
Et ça donne bien que tu l'as aimé, parce qu'on va le faire tirer,
ce jeu-là. Oui, on le fait tirer. Alors, excellent. C'est le jeu qu'on va faire tirer aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, vous devrez répondre à la question mystère de François. Vous devez composer le 88-529-9026. 88-529-9026. Et quelle est la question mystère, François?
Alors, la question est très simple. Entre un samouraï et un chevalier qui se battent, c'est qui gagne?
Oh.
Entre un samouraï et un chevalier, qui est le vainqueur?
Et c'est ce qu'on verra dans quelques instants. Le temps de passer en musique pour recevoir les appels.
Et c'est pour gagner gratuitement le jeu d'Ixet. Il faut être membre de CKIA.
Excellent.
Donc, sinon, on va aller écouter une pièce.
Allons-y.
Ça va être une pièce de Weird Al Yankovic qui s'appelle The Saga Begins. Vous écoutez Puissance Maximale.
A long, long time ago, in a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, then met Jar Jar in Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the Queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy. Oh my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later. Now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave? But he can use the force, they say. Do you see him hitting on the queen? Though he's just 9 and she's 14. Yeah, he's probably gonna marry her someday. Well, I know
LT3PO, and I've heard how fast his pod can go. And we were broke, it's true. So we made a wager or two. He was a prepubescent flying ace. And the minute Jabba started off that race, well, I knew who would win first place. Oh, yes, it was. Just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Now we finally got to Coruscant. The Jedi Council we knew would want to see how good the boy could be. Caught a ride back to Naboo, 'cause Queen Amidala wanted to. I frankly would have liked to stay. We all fought in that epic war, and it wasn't long.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale.
Sur les ondes de CKIA, et on va parler un peu d'actualité ludique avec François.
Allons-y. Donc, il s'en est passé des choses, hein, n'est-ce pas? Il se passe toujours plein de choses dans notre petit monde du jeu. Donc, quelque chose de choquant en partant. Donc, les jeunes gens se peuvent, encore une fois, se... c'est l'émission 18 ans et plus aujourd'hui.
Eh oui, ben ça arrive de temps en temps.
Donc, Ron Jeremy qui poursuit Nintendo. Qui est Ron Jeremy?
Et je ne sais pas.
Oui, c'est le genre de personne qu'il faut répondre, je ne sais pas. Parce que si vous connaissez, c'est probablement parce que vous êtes amateur de films pornographiques.
Ah.
Et l'acteur Ron Jeremy, c'est un grand acteur qui est actif depuis les années 80 là-dedans.
Sûrement lauréat d'un Oscar à quelque part, non?
Okay. Quelque part. Et donc lui, il soutient que Miyamoto se serait clairement inspiré de lui pour créer le personnage de Mario.
Bien sûr.
Le plombier obèse. Et là, selon son avocat Todd Ludlow, il a dit ceci. Nous comptons prouver que Nintendo a utilisé l'image de mon client comme base pour créer l'un des plus célèbres personnages du jeu vidéo de l'histoire. Mario, effectivement, c'est un personnage, on peut pas y enlever ça. Si vous regardez les faits, il est assez évident de voir d'où provient l'inspiration de Monsieur Miyamoto. Les points communs sont clairs, le ventre rebondi et la moustache noire.
C'est clair que c'est vraiment le même.
Tout est là. Et l'avocat soulignerait aussi que le fait que Mario s'amuse avec de la tuyauterie, il est plombier, quoi, et il se serait un clin d'œil au métier de son client. Et il réclamerait 69 millions de dollars de dommages et intérêts, mais probablement que tout ça serait qu'une grosse blague publicitaire.
Parce qu'il y en a qui n'ont rien à faire, vraiment, dans la vie, c'est incroyable, mais on vient pas de cette nouvelle-là.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Ron Jeremy est apparu dans plusieurs autres jeux vidéo, donc dans Celebrity Deathmatch et... aussi un personnage de Laser Suit Larry Magnacom Cloud. Tabarnouche, c'est pas facile à dire.
C'est...
Parce que Laser Suit Larry, c'est un vieux jeu d'aventure de...
Oui, jeu de Larry à l'époque, oui.
C'est un vieux de l'année, ça remonte aux années 90. En tout cas. Et c'était ça pour Ron Jeremy. Sinon, il y a aussi, à Québec, qu'est-ce qui se passe de bon? Il y a Longtail Studio qui a produit son premier jeu console. Donc, étant donné que c'est une entreprise de notre ville.
Du coin.
On les salue et oui. On est content pour eux. Donc, ils viennent de sortir leur premier jeu
qui s'appelle Grey's Anatomy sur la Wii, la Nintendo DS et sur PC. Et il s'agit d'un jeu qui est basé sur la série télévisée du même nom, donc Grey Anatomy. Et ça se déroule à l'intérieur d'un hôpital, donc c'est un espèce de jeu d'aventure. Hein. Il faut, je sais pas...
Jeu d'aventure dans un hôpital, c'est assez spécial.
C'est comme dans le grand blond, le chevreau avec un grand blond avec le cœur à ses raisons. Oui. Madame telle machin est constipée, il faut aller l'aider. Bon, c'est ce genre d'aventure-là, c'est complètement extraordinaire. Et donc, Longtail Studio ne fait plus de jeux de téléphone cellulaire, sauf pour l'iPod et l'iPod Touch d'Apple. Et donc, Grey Anatomy est édité par Ubisoft, mais produit par Longtail. Et pour plus d'informations, les gens peuvent aller évidemment sur puissancemaximale.com.
Et oui, c'est notre site internet. Et juste avant de terminer avec l'agenda, on salue notre gagnant du jeu qui est Christian, qui nous a appelé et a eu la bonne réponse à la question.
Et c'était pas facile, il a réussi. Bravo. Sinon,
l'agenda de l'agenda. La semaine.
Allons-y pour l'agenda. Donc, évidemment, chaque semaine, tu veux sortir de ton sous-sol, tu veux prendre un peu d'air, eh bien, dirige-toi à tous les mardis au Café Babylone pour jouer des parties de Go dès 19h. Sinon, le jeudi et vendredi, c'est les parties de Magic à l'Albéry Donjon. Aussi, le mercredi et samedi, toujours à l'Albéry Donjon, c'est les Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40 000, les figurines miniatures. Et le dimanche, c'est les parties de Yu-Gi-Oh! Le 17 avril, à la Ninkasi, il va y avoir un événement exceptionnel de Harajuku, Québec. C'est un événement, une espèce de soirée dance, J-pop, électro, chiptune, industriel, donc à la Ninkasi. Sinon, il y a aussi, à tous les mardis, au même endroit à la Ninkasi, il y a des tournois de hockey sur Wii. Et finalement, qu'est-ce que vous faites instantanément, maintenant? Là, vous...
À 18h, ce sont les soirées puissance maximale, les soirées de jeu à l'Abraham Martin. Dans quelques minutes, nous y serons.
C'est des jeux de plateau, c'est gratis. Okay.
Et oui.
Et pourquoi vous en passez?
Et peut-être que Christian viendra chercher son jeu à l'Abraham Martin. Et il devra aussi passer d'une manière ou d'une autre à CKIA pour avoir son jeu.
Oui.
Alors, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. François Gécouillard, merci beaucoup d'être passé, bien sûr, d'avoir activé la console.
Merci à toi, Vincent, d'avoir animé aussi extraordinairement cette émission.
Et ça me fait plaisir. Tout ça pour vous dire à tous et à toutes, vous souhaiter une bonne semaine. C'est l'émission Homologue qui suit.
I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with the wizard and my goblin crew. My friends are coming.